BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous allons parler de défense. Sur quel chantier relancer l'Europe? C'est la grande question à Bruxelles et dans l'ensemble des capitales européennes. Et l'une des réponses qui arrive toujours en premier, c'est de relancer la défense. On commence à parler, enfin on reparle, c'est un serpent de mer, mais on parle beaucoup en ce moment d'une armée commune européenne. Bonjour Jean Arthuis.
Bonjour.
Eurodéputé UDI et ADLE, ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européen. Merci d'être avec nous. Christian Preda, bonjour. Vous êtes eurodéputé roumain PPE, ici, Parti Populaire Européen au Parlement Européen. Bonjour Nicolas Grosvered.
Bonjour.
Vous êtes le patron du site internet Bruxelles 2, spécialisé sur les questions de sécurité et de défense dans la capitale européenne. Bonjour Jean Quatremer.
Bonsoir.
Vous êtes le patron de votre rédaction mono-journalistique voilà. À Bruxelles de Libération.
Petite entreprise.
Petite entreprise, qui ne connaît pas la crise. Non, parce qu'il y a tellement de crises à couvrir ici à Bruxelles que votre entreprise ne connaît pas la crise. Bonjour Charles de Marseille.
Bonjour Yann.
Vous êtes le directeur de la Fondation Robert Schuman à Bruxelles. Juste cette petite question à Nicolas Gros, l'un des spécialistes journalistiques de l'étape. Ce serait bien, non, une armée commune européenne?
Oui, ça c'est... En fait, c'est un leurre. Hein. C'est l'histoire de faire rire dans les chaumières.
En fait, on a convenu avant. On disait, qu'est-ce qui va énerver Nicolas? On dit, il suffit de dire armée européenne, il va s'énerver.
C'est ce qu'agite à chaque fois, par exemple, un ministre britannique. Quand il veut s'opposer, il dit « je serai contre une armée européenne ». C'est assez facile parce que c'est comme être contre rien, quoi. Donc, parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y aura pas de projet, et pour l'instant, c'est très difficile. Si vous mettez juste le mot « armée européenne », vous dites « on harmonise les grades, on harmonise les salaires », vous avez déjà terminé le dossier.
Nicolas, vous commencez par ça, je veux dire, pourquoi pas amener la CGT dans la négociation pendant qu'on y est? Sérieux.
Vers une armée commune européenne, point d'interrogation, c'est le thème de discussion de 500 millions d'Européens aujourd'hui pour réagir, hashtag 500ME. Alors, la France et l'Allemagne ont relancé l'idée d'une défense commune de l'Union européenne. Mais cette perspective était bloquée jusqu'à maintenant par le Royaume-Uni, mais sa réalisation s'annonce toujours très difficile tant les objectifs divergent entre les États membres. Voilà, pour résumer les discussions, est-ce que vous, Jean Arthuis, l'idée, la perspective d'une armée européenne vous séduit?
Moi, je trouve que ça a du sens, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les chefs d'État et de gouvernement essaient de préserver l'illusion qu'ils auraient encore en main toutes leurs prérogatives de souveraineté. Et ce faisant, ils prennent le risque de donner en spectacle leur impuissance. Donc, que l'on puisse aujourd'hui s'interroger sur celles des souverainetés qui pourraient être plus efficacement exercées à la condition de les partager au plan européen, je trouve que c'est une bonne idée.
Oui. Christian Preda, vous, l'idée d'une armée commune européenne, vous séduit-elle?
Écoutez, les illusions ne me séduisent plus. Moi, je viens d'un ex-pays communiste où...
La Roumanie.
La Roumanie. Et puis, les illusions, ça a quand même dominé un certain nombre de mes concitoyens. Moi, ce que je vois, c'est un mouvement vers la recherche de quelque chose de commun. Si on pourra avancer dans certains domaines liés à la défense, notamment, par exemple, dans des questions liées à la recherche, à la mise... à la synchronisation de certaines procédures, modes de travail, ça serait déjà pas mal. Sinon, on a déjà, il faut rappeler cela, on a quand même 22 des 28 pays membres de l'Union européenne qui sont ensemble dans l'OTAN. Et l'OTAN, ça représente quelque chose d'important. Maintenant, il ne faut pas utiliser en même temps l'OTAN comme l'argument contre toute coopération européenne. Ça aussi, c'est bête.
Il va y avoir un pilier européen.
Il faut savoir, oui, mais il faut savoir aussi le fait que sur les 22 membres de l'OTAN, il y a très peu la Grande-Bretagne, justement, et la Grèce qui ont dans leur budget 2% pour l'armée. Et maintenant, il y a...
La Grèce, on a payé un peu.
Oui, non, mais je veux dire,
juste pour sortir ce que vous venez de dire, sur ce que vous venez de dire, Christian Preda, en matière de recherche, un exemple concret, alors c'est pas militaire, mais Galileo, le programme de satellite européen, on a mis nos moyens en commun, on a pondu ce projet-là, on a lancé des satellites, et c'est ce qui permet à l'Europe d'être indépendante vis-à-vis du GPS américain. même si ça n'a pas été simple à mettre en place.
Tout à fait, mais je crois qu'on peut avancer comme ça dans un certain nombre de domaines et qu'il vaut mieux parler des choses très...
Et dans le budget 2017
des choses qu'on peut voir et qu'on peut imaginer, pas des...
Il y a 25 millions préparatoires,
Pour la recherche. Dans le budget de la recherche, sur un projet de 90 millions, c'est pas gigantesque, mais la recherche, ça n'a pas que des effets au plan militaire, ça a des effets au plan civil. Internet, c'est l'enfant d'une recherche militaire.
Charles Mercier. Ce qu'on peut observer, c'est surtout que je trouve que sur 2016, il y a des vrais... initiatives sur les questions de sécurité et de défense qu'on n'avait peut-être pas auparavant. On voit que les citoyens comprennent qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin. Il y a une volonté aussi de pouvoir agir en commun. À 27 ou 28, ça, j'en suis pas convaincu. Et donc, c'est pour ça que l'armée européenne paraît aujourd'hui franchement chimérique. Mais si on regarde l'initiative qui était proposée par la haute représentante en juillet, si on voit le sommet de Varsovie aussi avec l'OTAN, Union européenne, OTAN, et la signature avec les patrons des institutions, si on regarde l'initiative commune franco-allemande de septembre, on voit que ce sont des thématiques sur lesquelles, paradoxalement, en ce moment, il y a une fenêtre d'opportunité pour aller un peu plus loin. Et là-dessus, je pense qu'il faut capitaliser.
Jean, si on se pose cette question, si on se dit qu'est-ce qu'on ferait si on était moins bête? Est-ce que l'armée commune européenne... Non mais sérieusement, est-ce que l'armée commune européenne, c'est une réponse qui vient? Ça nous coûte tellement cher à tous d'avoir chacun une armée, sachant qu'il y a beaucoup d'États européens qui ont juste de quoi faire beau dans les défilés. Ils seraient incapables de se déplacer sur des théâtres d'opérations, etc. Alors après, là, je pars sur des idées que Nicolas connaît bien mieux que nous tous autour de cette table, en tout cas que moi. Mais qu'en pensez-vous? C'est une évidence, une armée européenne.
Je veux dire, ce qui est rationnel, techniquement, n'est pas forcément réalisable politiquement. D'ailleurs, là, on vient d'avoir encore un magnifique exemple avec l'annulation du contrat Caracal par la Pologne. Et qu'ils vont acheter une nouvelle fois acheter du matériel américain. Les Belges qui se posent même pas la question de savoir s'il faut acheter un avion européen et en l'occurrence français, mais qui vont acheter parce que ce sont les Flamands qui dirigent l'armée belge et qui sont très liés avec l'armée néerlandaise, vont acheter un F-35 dont ils n'ont pas besoin. C'est comme si j'ai acheté une Porsche alors que je vis dans une île grecque. Ça n'a aucun sens pour les Belges d'avoir des F-35. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Et tout est comme ça dans l'Union européenne. Donc tout le monde, effectivement, fantasme. Moi, dans mes rêves fédéralistes nocturnes, il m'arrive de rêver d'une armée européenne avec des drapeaux européens, des porte-avions européens, et puis on irait montrer un peu ce qu'on est aux Américains. Mais simplement, ça ne verra pas le jour parce qu'on s'est fait tellement la guerre pendant tellement d'années, on se méfie tellement les uns des autres. Pas tellement les peuples, mais nos dirigeants se méfient les uns des autres, qu'on n'est pas prêt à se faire confiance. Les Polonais, ils en sont restés en 1939, quand on les a laissés tomber face aux nazis et aux communistes. Ils ne nous l'ont pas pardonné, ils font toujours plus confiance aux Américains qu'aux Français. On est comme ça, les Belges se méfient toujours des Français, parce que traditionnellement, pour les Belges, l'ennemi, c'est la France. Les Néerlandais, n'en parlons même pas. Donc, avec tout ça, ce qu'il faut faire, c'est plutôt des coopérations concrètes, essayer de faire ce qu'on peut faire dans un certain nombre de domaines, effectivement. Alors, c'est pas grandiose, ça sera pas la monnaie unique. Si on veut refaire avec la défense européenne ce qu'on a voulu faire pour la monnaie unique, autant bâcher tout de suite, ça n'aura jamais le jour.
Nicolas Gros.
Mais le problème de l'Europe de la défense, faut voir ce que l'on entend par Europe de la défense. Tout le monde est d'accord que la défense territoriale militaire, c'est l'OTAN. Personne ne le conteste. Encore que la défense
de l'Union européenne,
des frontières, là, voilà. Encore que la défense territoriale civile, c'est-à-dire police, gendarmerie, maritime, aujourd'hui, c'est à partir de demain, ça sera l'Union européenne qui le fera avec un corps européen, ce qui est passé complètement comme une lettre à la poste, de façon totalement inconnue, avec une délégation de souveraineté qui est incroyable, inestimable, et des poules de réserve. Donc ça montre que quand on veut, quand il y a une crise et quand il y a un problème, tout d'un coup, tout le monde est d'accord pour se mettre d'accord sur quelque chose qui est assez dimensionné par rapport à l'Europe, par rapport à une problématique particulière. Ce que l'on entend par Europe de la défense, c'est aller faire de la stabilisation à l'extérieur, c'est-à-dire aller stabiliser les armées en Afrique, aller...
Ce que personne n'a envie de faire seul, en gros.
Non,
ce que personne ne peut faire
ne
seul.
Ne peut faire tout seul. Oui. Même les Américains, tout seuls, ne peuvent pas le faire. Donc, c'est ça. Et ça, effectivement, il faut le faire ensemble. C'est les marchés de défense. Là, on est dans l'analyse classique. Un marché global vaut mieux que 27 marchés. Mais comme l'a dit Jean, personne n'est capable de le faire. Donc, il y a une vraie problématique là de force. Et on sait très bien que la plupart des pays ne respectent pas les directives. Parce qu'il y a des directives qui sont mises en place, mais que la Commission ne voudra pas agir, parce que agiter le bâton sur cet aspect de souveraineté, c'est se prendre en retour un coup de bâton encore plus fort, donc on n'osera pas taper, même si on sait qu'il y a des violations flagrantes du marché. Et le troisième élément, c'est d'essayer de trouver techniquement, comme pour la recherche, des leviers qui vont permettre, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus de recherche. Même on fait plus de recherche, il n'y a plus d'industrie. C'est de la mathématique, c'est que dans 20 ans, il n'y a plus d'industrie européenne. Il faudra acheter sur étagère, et encore 20 ans, c'est un grand délai, je suis optimiste, chez les Américains ou chez les autres.
Si on fait plus de recherche, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté ou parce qu'il n'y a pas de budget ?
C'est parce qu'il est retué. Il n'y a pas de budget.
D'abord, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté.
L'homme du budget.
Lorsqu'il y a le budget est l'expression d'une vision, d'une ambition et d'un projet. Or, si le budget européen est ce qu'il est, c'est parce qu'il n'y a pas d'ambition. C'est un budget de redistribution. 80% du budget repart vers les États membres. Et 90% des recettes viennent des États membres. Les seules ressources propres sont les droits de douane. Et comme on n'arrête pas de signer des traités de libre-échange, il n'y a plus de droits de douane. Bon. Donc, on redistribue entre les États membres, mais il n'y a, y a, pas d'ambition européenne. Et c'est bien ça le sujet. Tout à l'heure, on a dit que... on pourrait peut-être reprendre ou pas reprendre le modèle de l'euro. Mais je pense qu'on pourrait imaginer une coopération structurée sur le modèle de l'euro, précisément, à condition d'améliorer la gouvernance. Mais on peut très bien imaginer qu'il y a un groupe qui se constitue entre ceux des Européens qui estiment être intéressés par un tel partage de moyens et d'un début de partage de souveraineté. Ce qu'on a vécu avec l'euro dans sa piètre gouvernance est riche d'enseignements pour donner une consistance beaucoup plus significative. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est mettre dans le coup les Européens. Parce que tout ça reste entre les États-majors, entre les chefs d'État et de gouvernement. Mais à quel moment l'Europe parle-t-elle aux Européens ? Jamais, pratiquement. Si on veut faire pression sur les chefs d'État et de gouvernement, il faut qu'il y ait une opinion publique européenne.
Sachant que l'opinion publique européenne... Et vraiment derrière ce projet de...
C'est le seul projet qui recueille un assentiment à des scores quasiment inespérés de 80%.
C'est précisément là qu'est là le sujet. Ce sont les Européens qu'il faut qu'on intéresse à cette question.
Oui, je vais réagir pour dire une chose qui va peut-être fâcher
entre
vous. Parce que moi, je prends un exemple très concret. Il y a une mission qui fut à un certain moment grande ambition européenne, la mission EUFOR Althea, qui est basé en Bosnie. Moi, il se trouve que je suis le rapporteur pour ce pays. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des grands pays, notamment, entre autres, la France et l'Allemagne, qui viennent avec cette nouvelle ambition, ne payent plus, ne sont pas vraiment engagés dans cela. Mmh. On a des petits États, petits par rapport à l'Allemagne et à la France, de la région, la Hongrie, les gens qui sont en Autriche, qui sont plus près de l'espace, et qui veulent continuer à agir là-bas. Moi, je trouve qu'il est toujours important d'avoir EUFOR Althea sur place. Sauf que l'engagement n'est plus là. Donc, avant de se lancer dans des nouvelles initiatives, et notamment dans des initiatives qui ont aussi une portée politique, il faut voir ce qu'on fait sur place. Qui a profité du fait que maintenant, EUFOR Althea est un peu...
Que les Français et les Allemands ne sont pas crédibles sur la question.
Je vais vous dire. Ceux qui ont déjà profité, c'est les Russes, qui exercent une influence en Bosnie-Herzégovine qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans, quand les Allemands et les Français étaient vraiment avec le militaire là-bas. Donc, il y a des conséquences politiques à nos gestes. Et donc, avant de se lancer dans des grands projets, il faut voir ce qu'on a à gérer déjà en terre européenne, parce qu'à Bosnie, c'est terre européenne.
Et là est le vrai sujet.
Ouais.
C'est que on ne débat pas de cela sur la place publique. Et les citoyens européens ne sont pas associés d'abord au diagnostic, au sentiment qu'il faudrait peut-être mettre en commun un certain nombre de moyens, être cohérent et mettre un terme à cette Europe.
Si ça s'est pas fait pendant la crise, au moment où tout le monde cherchait de l'argent dans les tiroirs, etc., on se demande
Effets. Parce que sur la crise, il y avait deux tendances. Soit on disait que la crise poussait à la solidarité, soit le poussait au repli. Ce qui est plutôt la logique, je dirais, d'une crise. C'est-à-dire, quand vous êtes en crise, vous commencez à économiser chez vous et à vouloir
juste
dépenser pour vous-même.
Juste après un court message publicitaire, on reviendra sur cette question. L'Europe de la défense, une armée commune européenne. Nicolas Gros le disait aujourd'hui. Bon, voilà, on en parle, c'est une idée, mais il n'y a pas de projet. Est-ce qu'avec le départ des Grands-Bretons, il va enfin y avoir un projet sur la table ? On en discute juste après une courte page publicitaire. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, nous avons autour de la table notamment deux eurodéputés, Jean Arthuis, eurodéputé UDI, ainsi que de l'Alliance, sa famille politique européenne, c'est l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Christian Preda, eurodéputé roumain, indépendant sur l'échiquier politique national, mais PPE ici au Parlement européen, Parti populaire européen, c'est le centre-droit. Nicolas Gros-Vered du site internet spécialisé dans les questions de sécurité et de défense, Bruxelles 2, lui il est très à gauche, Jean Quatremer, lui il est très à droite, de plus en plus, A priori, bon, c'est le gars de Libé, c'est la caution de gauche de l'émission, voilà, en règle générale. Et puis Charles de Marcy, de l'arbitre. La Fondation Robert Schuman. Lui, c'est l'arbitre. Hein. C'est tout à fait, vous n'avez pas de couleur politique, non, la Fondation Robert Schuman. Vous êtes affilié PPE ou pas?
On travaille aussi avec les think tanks du PPE, oui.
D'accord, très bien. On parle de cette question, comment relancer l'Europe, à travers quel projet concret tient l'idée d'une armée européenne a revu le jour. Ce sont les Français et les Allemands, pardon. Il y a eu longtemps les Français et les Britanniques qui s'accordaient sur les questions de défense.
C'était ça que voulaient les Britanniques. C'était en fait dire, surtout si vous faites quelque chose, le vrai message du non à l'armée européenne, c'était surtout si vous faites quelque chose, pensez à nous associer. Le non à un projet inexistant, le message subliminal, c'est s'il vous plaît, et on n'a jamais vu les Britanniques, que depuis le Brexit, aussi engagés sur toutes les questions européennes de défense. Ils veulent être sur toutes les opérations, ils veulent être présents partout et ils voudraient en fait continuer à participer à l'Europe de la défense.
Mais une fois qu'ils seront sortis, comment ça va se passer,
Nicolas? C'est justement ça la question. Et c'est ça, oui. C'est pour ça qu'ils ont
J'aimerais
dit non.
J'aimerais bien avoir une réponse. Une fois qu'ils seront sortis, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, eux, ils voudraient continuer d'avoir en fait un pouvoir de décision.
Est-ce que nous, on a envie de leur laisser un pouvoir de décision?
La vraie
décision.
Question, c'est de savoir, certains n'ont pas envie.
Qui n'a pas envie?
Les Français et les Allemands. Par contre, d'autres, et c'est là où le nom britannique était en fait une fausse illusion d'un nom, parce que derrière les Britanniques, il y a plein de réticents. La dernière réunion de Bratislava l'a montré. En fait, les Suédois sont totalement contre l'idée d'une Europe de la défense. Les Néerlandais sont totalement contre. Les Belges, qui avant étaient quand même, sont aussi pas tellement pour. Oui, parce que les Polonais sont totalement contre. Les Baltes sont contre. Donc en fait, derrière les Britanniques, en fait, si vous voyez, c'est très simple. Il y a le nord de l'Europe, géographique. Tout le nord est plus ou moins, à part les Finlandais, plus ou moins réticents. Et plus vous descendez, le centre est plus ou moins pour des systèmes d'intégration européenne, et le sud est à fond pour.
Mais c'est passionnant ce que vous dites, Nicolas. Si on peut poursuivre Jean Quatremer sur ce que dit Nicolas Gros. C'est passionnant ce que vous dites, c'est que finalement, le Brexit, la volonté de sortie de l'Union européenne des Britanniques, engendre un approfondissement de l'engagement britannique sur certains dossiers européens, dont les questions de défense.
Approfondissement, non, mais ils veulent rester sur le strapontin pour pouvoir dire non au moment le cas échéant.
C'est le paradoxe.
Je pense que c'est sur tous les autres domaines.
On peut être méchant avec les Britanniques, parfois ils le méritent. Hein, donc, mais je veux dire, pour leur contribution dans certaines opérations qui sont importantes, la Libye par exemple, il faut dire qu'ils sont décisifs. Et si vous parlez à Federica Mogherini, la haute représentante, elle va vous dire en détail combien précieuse était la collaboration britannique dans un certain nombre de dossiers. Donc, de l'autre côté, je voudrais ajouter, parce que ce n'est pas seulement la Pologne, vous avez dans d'autres pays de l'Est, ex-pays communistes, des gens qui sont attachés non seulement aux États-Unis et non seulement à cette forte liaison militaire et politique avec les États-Unis, mais aussi aux Britanniques. Et il y a des familles qui sont non seulement des conservateurs, mais aussi des familles de centre-droite, des libéraux par exemple, qui parient maintenant sur grande coopération, une coopération renforcée avec les Britanniques après Brexit dans des questions militaires. Mmh. Je crois qu'il faut prendre en compte cela. Il ne faut pas le traiter comme...
Dans la façon dont ça fonctionne, les rapports des armées nationales avec l'Europe de la défense. Il faut regarder les pays où l'état-major ou les responsables militaires sont formés à West Point. Ça, c'est super intéressant. Et quand vous allez aux Pays-Bas, par exemple, tous les militaires de néerlandais ont été formés à West Point. Après, vous vous étonnez qu'ils achètent uniquement du matériel
donc, aux
américain.
Aux États-Unis, oui.
West Point, aux États-Unis, effectivement. Je crois que tout le monde le sait, non? Avec, grâce à Tom Cruise.
Pas forcément.
C'est à peu près connu. Mais donc, il y a cet élément aussi de la culture militaire qui, depuis 1945, depuis 1945, je veux dire qu'il y a eu une soumission de facto des appareils militaires à la logique du vainqueur. Deuxième élément qui, à mon avis, joue énormément dans cette affaire de difficulté à mettre en place l'Europe de la défense, c'est que du côté des Français, les Allemands ne sont pas sérieux. La défense en Europe, c'est avec les Anglais. Moi, j'ai toujours été fasciné de découvrir à quel point, pour les Français, jusqu'un jour, j'avais dit à un des responsables du Quai d'Orsay, je dis, vous savez, les Allemands, c'est vrai, n'ont pas d'armée sérieuse, mais ils ont montré dans l'histoire leur capacité à réarmer rapidement et à nous mettre une pâtée encore plus rapidement. Donc, on ne devrait pas les sous-estimer comme nous continuons à le faire. Et il y a une tradition longue dans l'appareil diplomatique français de méfiance à l'égard de l'Allemagne et de fascination à l'égard des Anglais. Tous les accords que Chirac ou Sarkozy ont signés, par exemple, avec les Britanniques en matière de défense, les accords de Saint-Malo, tous ces machins, etc., qui n'ont pas débouché sur grand-chose. Enfin, sauf si Nicolas me contredit. Mais en tous les cas, à chaque fois, ils nous ont promis beaucoup de choses. On n'a jamais eu de choses qui ont été délivrées. Et avec les Allemands, on fait peu de choses. Mais à chaque fois qu'on fait des choses, ça fonctionne vachement bien. Le Tigre, ça fonctionne très bien. Il va y avoir une intégration, je crois, dans le domaine des chars.
Il y a une intégration industrielle. Avec les Allemands, en fait, le maître mot allemand, c'est l'intégration. En fait,
je crois qu'il faut, être pragmatique. On voit bien que la plupart des États sont en difficulté budgétaire et ont tendance à réduire les dépenses de défense. Au train où vont les choses, l'Europe va être dans une vulnérabilité extraordinaire. Alors, on peut penser que les États-Unis seront toujours là pour nous aider, mais interrogez-vous à propos du profil des candidats à l'élection présidentielle américaine.
Les deux.
Il y a peut-être un moment où l'Europe va devoir prendre conscience.
Donc vulnérabilité, donc perte d'influence à l'échelle mondiale, donc sentiment de déclin renforcé. Et c'est quoi
Eh bien, je pense qu'il faut réagir par rapport à cela. Et que si on fait un premier pas dans le domaine de la recherche, c'est quelque chose de très positif. Si les états-majors peuvent cesser les directions de l'armement, de vouloir avoir à chaque fois le mouton à cinq pattes qui fait que ça coûte des dépenses folles pour s'équiper, si on travaille d'une manière un peu plus rationnelle, si on met les Européens dans le coup, je pense qu'on peut avancer. On pourrait commencer par une coopération structurée, ce qui est parfaitement compatible avec les traités, avec un mode de gouvernance qui pourrait s'apparenter à celui de la zone euro, condition que la zone euro se donne effectivement une gouvernance digne de ce nom. Je pense qu'on est là sur un chemin d'avenir et que ceci peut donner du sens à la démarche européenne.
Charles Marcy. Les États britanniques vont aussi mettre quand même les autres devant leurs responsabilités. On le voit avec l'Allemagne qui change un peu quand même son fusil d'épaule. Oui. Son budget en 2017 sur les questions de défense a augmenté pratiquement 6 à 7%, ce qui n'est pas anodin. On a vu le livre blanc en juillet aussi, qu'ils essayaient de remettre une certaine stratégie. Il va y avoir des nouvelles problématiques, notamment sur la cybersécurité. Donc il y a des choses qu'on fera aussi de façon collective et il faudra des nouvelles impulsions. Et donc les Britanniques qui partent, il faudra réfléchir à comment est-ce qu'on, mine de rien, on continue avec eux parce qu'on ne pourra pas complètement se séparer. Et il y en aura d'autres qui vont prendre leurs responsabilités, y compris l'Allemagne.
Voilà, il faut préparer le matériel du futur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on va faire, effectivement, le char de combat, c'est intéressant, ou l'avion de combat.
Il n'y a plus que ça.
C'est le passé. Il faut penser aux drones, il faut penser aux matériaux.
Il y a un projet de drones européens.
Oui, mais on est en retard, on est à la ramasse, on est en retard de 20 ans sur les drones. Toutes les armées européennes, aujourd'hui, veulent s'équiper d'avions de chasse. C'est une vulgaire fumisterie. La Belgique ferait mieux, au lieu de s'équiper de F-35, de s'équiper d'une flotte de drones. Leur budget, ils pourraient s'équiper de 200, voire de 300 drones pour ce prix-là. C'est-à-dire qu'en gros, ils auraient une flotte qu'aucun État européen n'a. Et ils pourraient la mettre à disposition de l'Alliance, de l'Union européenne. Mais aucun État ne veut faire ça parce qu'ils veulent faire joujou sur leur espace. Parce que la plupart des armées européennes, c'est des armées d'opérettes. Il faut arrêter.
Qui joue beau dans les défilés.
Et encore, parce qu'ils n'arrivent même pas à faire les défilés.
Du coup,
comme le record.
Si les Russes tous demain et envoient trois chars, leur seul problème, c'est peut-être le premier péage, et encore, ils sont à Berlin ou à Bonn avant qu'il y ait un début de réaction. Ils peuvent y aller, ils ont la route libre.
Christian, je crois qu'il est trop pessimiste. Moi, je suis un peu plus optimiste, et je crois
d'ailleurs. S'ils prennent le télépéage, en plus, on est mal.
Je crois que toutes ces bonnes intentions, tous ces bons projets pourraient très bien marcher si on ne stimule pas un anti-américanisme qui parfois tient la place, d'un adversaire dont on aurait besoin. Moi, je vais vous dire une chose très simple. La génération de mes grands-parents, sous le communisme, attendait les Américains. Ils sont jamais venus, militairement. Ils sont jamais venus. Ils sont venus, les Américains, il y a 2-3 ans. Et on a maintenant des Américains qui donnent d'une manière très concrète aux citoyens roumains le sentiment qu'ils ont une protection qui est à côté d'eux. Ça, c'est important culturellement. C'est pas seulement la question de la culture militaire, mais c'est une culture sociale, c'est une sensibilité de la société dont on doit tenir compte. Et je ne crois pas que l'anti-américanisme pourrait être un élément qui stimule...
Messieurs, juste une question autour de la table, s'il vous plaît. Pour faire le tour de table, il nous reste à peine quelques secondes. À votre avis, est-ce qu'on se dirige vers une armée commune européenne? Oui, non, et à quelle échéance? 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans. Jean Arthuis.
Je crois qu'il faut se donner cet objectif. C'est l'horizon. Maintenant, il faut être pragmatique et commencer par des actions très concrètes avec ceux qui sont désireux de s'engager, de mettre en commun des moyens au travers de coopérations structurées. Le projet...
L'Europe ne se fera pas d'un coup.
L'action préparatoire sur la recherche me paraît un très bon signal.
D'accord. Christiane Preda, armée européenne, est-ce que c'est une évidence, une fatalité à l'échelle européenne, et est-ce que ça pourrait arriver d'ici 10, 20, 30, 40 ans?
La fatalité, c'est plus de coopération entre les Européens, une bonne amitié avec les États-Unis et les Britanniques, parce que les Britanniques vont nous quitter.
D'accord, Nicolas Gros.
C'est l'ES qui manque, c'est des armées européennes, des structures européennes, des coopérations renforcées. Entre Tchèques et Slovaques, ils sont en train de se dire, on ne peut plus travailler comme ça, ça chacun séparément, il faut qu'on travaille ensemble. L'EATC, par exemple, le système de gestion de l'aviation de transport, fonctionne très bien entre les Allemands, les Français et les Benelux.
Je demande juste un nombre d'années, moi.
Juste un élément, parce que c'est un élément fondamental. En 2008, ce n'est pas il y a 35 ans, on a été supplié à genoux, en rampant, en léchant les Russes, de fournir 4 hélicoptères. 4. Parce que les Européens étaient incapables d'envoyer 4 hélicoptères au Tchad. Et on est toujours incapables.
À peu près le moment où on n'a pas ces moyens-là. On se passera de l'avis de Jean Quatremer et de Charles de Marcy. On se retrouve juste après le journal pour la revue de presse européenne. Vous remercierez Nicolas Gros-Béred.
Merci.
Bravo. Suite.
Merci.
BFM Business. 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Bonjour Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International qui a épluché toute la presse européenne pour nous, la presse allemande, la presse tchèque, je ne savais pas que vous parliez tchèque, la presse britannique et la presse suédoise. Ça, je connaissais votre goût pour la langue suédoise. Autour de la table avec nous, Christiane Preda, eurodéputé, PPE roumain, Jean Arthuis, eurodéputé UDI, évidemment français, et de la famille de l'Alliance des libéraux et démocrates européens, Nicolas Gros-Véred, auteur et patron du site internet spécialiste des questions de défense et de sécurité Bruxelles, de Jean Quatremer, de Libération, Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schuman. De quoi allez-vous nous parler? Tiens, en lien avec notre émission consacrée à une armée européenne et à la défense, est-ce que vous avez un article là-dessus, Eric?
Ah, écoutez, en tout cas, on pourrait parler de la Suède, où il se passe quelque chose de très intéressant. C'est le retour du service militaire.
Ah, c'est pas mal ça. Et puis on va également donc aller en Allemagne, en République tchèque et en Grande-Bretagne. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500 ME.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Et donc dans la revue de presse, on monte au nord. On monte en Suède, où en Suède, eh bien, on parle du retour du service militaire.
Oui, Stockholm a annoncé le rétablissement de la conscription à partir de 2018. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'opinion est favorable. Et alors, figurez-vous, en tout cas, c'est le quotidien Dagens Nyheter qui nous l'explique, que c'est un changement complet, puisque ce service militaire, il a été supprimé il y a seulement 6 ans. C'était en l'été 2010. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans? Eh bien, une prise de conscience de beaucoup de choses, de beaucoup de crises à l'international, au niveau du monde, sur le plan mondial. Et cette idée que finalement, eh bien, le service militaire, en tout cas la conscription, avait du bon. Je vous cite le journal, il nous explique la décision d'annuler, de mettre fin au service militaire, c'était avant le conflit ukrainien, avant l'événement de la guerre hybride, avant les bombardements meurtriers en Syrie. Avec le recul, explique le journaliste, on se dit qu'on est allé bien trop vite. Et il y a une évidemment une réflexion au fond sur ce que doit faire l'État. Il faut d'abord et avant tout considérer la défense nationale comme le meilleur moyen de garantir notre droit à l'autodétermination et non comme un poste budgétaire compressible à loisir. Voilà ce qu'écrit Dagen Snieder.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour au service militaire en France, Jean Arthuet ?
Je crois que ce qu'il faut, c'est renforcer l'esprit de défense. Prendre conscience que l'Europe nous a apporté la paix, mais que nous devons la mériter et que nous sommes à la merci. Et quand je dis défense, c'est pas seulement au plan militaire, c'est également au plan économique, c'est au plan technologique. Donc, je pense qu'un service civique crée du lien entre les membres de la communauté. Il faudrait espérer qu'il ait une dimension plus européenne pour que la citoyenneté européenne y trouve un renforcement avec, pour ceux qui le souhaitent, des moments où l'on peut accéder à une formation militaire. Mmh. On voit maintenant se constituer des réserves dans la gendarmerie, dans les forces de police. Tout ça me paraît aller dans la bonne direction et nous met en lien avec ce que nous avons évoqué sur une défense européenne.
Christian Preda, en Roumanie, est-ce que vous avez le service militaire ?
Non, on a renoncé il y a quelques ans. Moi, j'ai fait mon service militaire il y a longtemps.
Ouais.
Ce qui est intéressant en Suède, c'est qu'ils vont faire cela pour les hommes et pour les femmes. Ça va être sur pied d'égalité. Ouais. Moi, j'exclus pas la possibilité que dans mon pays ou dans d'autres, on revient un service obligatoire, non seulement par peur, vu les conflits et vu l'idée que
les citoyens
doivent être... Mais aussi pour, justement, la construction du lien social, avec l'idée de produire l'égalité d'une manière ou d'une autre, parce que ça, c'est quand même une partie importante de nos mémoires. On n'a pas remplacé ce service militaire avec un service civil comme en France, donc c'est... On est vraiment dans une culture chez nous d'armée professionnelle.
Nicolas Gros, vous en pensez quoi, vous ?
Ils ont le droit de rétablir le service, mais c'est uniquement à des fins nationales et territoriales. Si vous avez une armée de conscription, vous occupez un maximum de soldats professionnels. C'est pour ça qu'elle a été supprimée en France. C'est pas juste parce que elle a été supprimée par Jacques Chirac, pas pour des raisons idéologiques. Parce qu'on s'est aperçu au lendemain de la guerre du Golfe que l'armée française, avec, je pense, 300 000 hommes à l'époque, c'était maximum 10 000 hommes disponibles envoyés à l'étranger. Aujourd'hui, l'armée française professionnelle peut avoir quasiment 30 000 hommes de déployés en permanence sur le territoire national et à l'étranger. On voit la différence en efficacité. Donc soit il y a une armée qui est du lien social, qui est chargée de la défense territoriale, soit ce qui est un choix, qui va dire qui n'est pas contestable. Mais soit on a une armée capable d'intervenir à l'extérieur et qui est un choix d'efficacité. Il y a deux choix politiques.
Jean Quatremer, est-ce que vous avez fait votre service militaire ?
Non, j'ai été réformé, d'ailleurs comme une grande partie des intellectuels de gauche, car je fus de gauche.
Et intellectuel. Et intellectuel,
c'est quand même
une nouvelle.
C'est pas tout jeune. On faisait tous réformer, vous savez, le service militaire n'était pas pour tout le monde. Il y avait des gens qui voulaient le faire idéologiquement, mais une grande partie des gens, c'était mon cas, qui refusaient le service militaire, il y avait 36 000 façons de se faire réformer, ce qui est un comble pour le fils d'un médecin militaire quand même. Mais mon père approuvait d'ailleurs, parce que lui, il n'aimait pas l'armée, puisqu'il en faisait partie. Mais le problème, c'est qu'on veut faire jouer à l'armée un rôle qui n'est pas le sien. Et ça, moi, je rejoins de nouveau Nicolas sur cette question-là. C'est est-ce que l'armée, elle est faite pour créer du lien social ou est-ce que c'est pas autre chose que créer du lien social ? Dire, encore une fois, on se dit l'école ne crée pas de lien social, on va le donner à l'armée. Demain, c'est pas l'armée, on va quoi ? Envoyer les enfants sur Mars ? Dire, ça n'a pas de sens. L'armée, elle n'est pas faite pour ça. L'armée, elle est faite pour remplir des missions, alors soit de défense territoriale, soit pour intervenir dans des pays étrangers.
Et pas juste pour récurer les toilettes.
Mais pas pour récurer. Et en pire, en quoi ? Le fait de récurer des toilettes va créer du lien social. Alors le grand truc, c'est de dire oui, mais parce que s'il y a un problème avec toute cette immigration musulmane, il faut leur donner nos valeurs.
Moi, je vous aurait fait du bien. Mais, moi.
Savez, finalement, c'est ce qu'on dit.
C'est assez amusant de récurer les toilettes, et ça, je suis assez professionnel là-dessus. Mais plus sérieusement, sur le fait du fameux lien social, je vous signale qu'en Belgique, il y a un ancien militaire de 43 ans, d'origine marocaine, qui a poignardé deux policiers dans les rues de Bruxelles. Donc, comme si l'armée, le fait d'avoir fait un an de service militaire.
Pareil aux États-Unis, il y a des tireurs fous, c'est souvent des anciens soldats, paramilitaires.
Ça ne garantit strictement rien. Donc, encore une fois, arrêtons avec ces fausses solutions qui, en plus, vont ponctionner le budget de la défense.
Charles
de
Marcy.
Moi, j'étais la première génération, justement, à ne plus avoir le service militaire obligatoire. En revanche,
donc
j'ai trouvé d'autres formes.
Les toilettes.
Non, mais j'ai trouvé d'autres formes d'engagement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse laisser, en fait,
la liberté de promouvoir certaines formes de défense, comprendre la défense économique, aujourd'hui la cybersécurité. Vous avez un ensemble de secteurs qui sont liés à ces questions de défense au sens très large. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut aller et pas essayer de mettre les gens pour penser que c'est un facteur social qu'il a peut-être été, mais c'est plus aujourd'hui le même contexte.
Merci Eric Scholl pour cet article. C'est très intéressant de voir ce retour au service militaire en Suède et puis notamment la mixité. Direction la République tchèque. Maintenant, vous allez nous parler du Berlusconi tchèque.
Oui, il s'appelle Andrej Babis. Alors en fait, c'est le ministre des Finances. Et effectivement, c'est un personnage à la fois intéressant et inquiétant. En tout cas, c'est ce qu'estime le journal tchèque en ligne Svobodné Forum. Pourquoi inquiétant ? Parce que il présente beaucoup de traits communs avec Berlusconi, une certaine idée du capitalisme. Et quand le journal nous le décrit, eh bien c'est presque comique, puisque, comme il l'écrit, c'est assez comique de penser que c'est ce même Andrej Babis, ancien communiste de la nomenclatura, qui incarne aujourd'hui le capitalisme vu à travers une lunette communiste, le pouvoir de l'argent. Ça pose aussi quelques questions, parce qu'il est donc ministre des Finances, il y a un parcours politique très rapide, en l'espace de quelques années, il a d'abord fait fortune dans l'agroalimentaire dans les années 90, et puis depuis 4-5 ans, il s'est jeté dans la politique en créant un parti en 2011, parti qui vient de remporter un parcours aux dernières élections régionales, il y a quelques jours, un grand succès, et en 2013, il a racheté deux journaux, et puis voilà, il est devenu entre-temps député, vice-premier ministre, et donc ministre des Finances. Et au passage, nous explique aussi le journal, il s'est aussi tapé à la porte de Bruxelles, puisque, je vous cite le journal, « Nul ne peut être à la fois ministre des Finances, principal bénéficiaire des subventions publiques et propriétaire de plusieurs journaux ». Il y a d'ailleurs, précise le journal, une enquête actuellement de l'OLAF, donc l'Office contre la... Enfin, vous connaissez ça mieux que moi, contre les...
La lutte antifraude.
De la lutte antifraude, et bien il y a une enquête actuellement sur les différentes subventions qu'il aurait touchées, et c'est le ministre des Finances, le Berlusconi.
Bon, en France, ça n'existe pas, ça, des milliardaires qui possèdent des journaux et qui touchent des financements publics ou qui ont des contrats publics.
Non.
Vite, on part sur la Roumanie. Oui, qui c'est le prédat, député roumain ?
On a eu quelque chose de similaire, mais il y a déjà 15 ans, avant l'entrée de la Roumanie en Europe, des hommes politiques, même au niveau local, pas au niveau national, qui avaient l'ambition d'avoir un poste télé, une équipe de football, et bien sûr, c'était des ex-communistes qui étaient devenus très riches. Donc, c'était le modèle Berlusconi reproduit à l'échelle locale. Bon, la plupart sont en prison, parce que, bon, leurs équipes
ils jouaient
sont
si mal.
Mortes.
Quand le foot ne marche pas, oui, c'est ça, d'accord.
Mais c'est quand même assez curieux, cette combinaison entre médias, football...
Mais c'est pas ça, c'est juste la police roumaine qui fait son travail. Je me souviens, on parlait avec une députée italienne, et on disait, il y a même beaucoup de mafias en Italie. Elle dit, non, c'est juste que nous, on les attrape.
Mais tu sais, vous savez, on a eu ici un député européen qui était quelqu'un comme ça. C'était le patron du plus grand club de football roumain, Steaua, qui était très riche et qui s'est retrouvé en prison il y a 2 ans de ça, c'est-à-dire il a quitté le Parlement.
Cela dit, en Roumanie, vous faites des blagues lourdes sur la Roumanie, mais je vous signale que Roumanie est un pays qui est en train de changer, parce que l'ancien commissaire européen
qui est l'ancien commissaire à l'agriculture,
qui était un commissaire d'ailleurs à l'agriculture absolument excellent, et qui aujourd'hui dirige la Roumanie, qui petit à petit essaye de faire changer son pays. Et moi, je trouve ça, c'est plutôt admirable. Et c'est vrai qu'on voit que dans certains pays, c'est en train de changer dans le bon sens, tandis que chez d'autres, je pense à la France, puisque vous avez fait allusion à la France, ça se change pour le pire.
Ce que j'ai raconté, c'est il y a 15 ans.
Nous, aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec quelques milliardaires possédant des médias vivant de contrats
publics. Mais d'ailleurs,
public.
Là, on va se diriger en Allemagne avec Eric Scholl, mais l'Allemagne, qui par exemple n'a toujours pas ratifié la convention de l'ONU contre la corruption avec le Soudan, etc. L'Allemagne qui fait partie des très rares pays à l'échelle internationale à ne pas avoir ratifié cette convention. Direction donc l'Allemagne avec vous, Eric Scholl, où on parle de Luther.
Oui, est-ce que, Yann-Anthony, je vais vous poser une petite colle. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 octobre 1517
1517. Alors, le lendemain, c'était un 1er novembre.
Écoutez, je vais vous dire. C'est en fait, c'est la Frankfurter Allgemeine Zeitung, donc de dimanche, nous donne la réponse, et je vous cite, un appariteur de la modeste université de Wittenberg aurait affiché sur la porte de la Schlosskirche, donc l'église, les thèses sur les indulgences, rédigées sur un mode érudit, par un professeur d'éthologie locale du nom de Martin Luder. Pas Luther, mais Luder, on a changé son nom après. Alors voilà, donc on va bientôt célébrer les 500 ans de la publication des 95 thèses de Martin Luther. Et autant vous dire que c'est un événement auquel l'Allemagne se prépare depuis plusieurs années et qui va être quelque chose d'assez extraordinaire puisque il l'envisage quasiment comme le mondial de 2006. En termes touristiques. Les investissements cumulés de l'État, de l'Église et du secteur privé pour l'année du jubilé devraient atteindre un demi-milliard d'euros, nous explique le journal. Et qu'est-ce qu'il s'agit de faire quoi, d'attirer l'attention, eh bien, du monde entier, et en particulier des plus de 800 millions de protestants qui vivent un peu partout dans le monde entier. Pour vous donner une petite anecdote, hein, il y a énormément de choses qui sont prévues, des concerts, des livres, des manifestations culturelles, etc. Il y a une figurine de Luther en Playmobil qui est déjà sortie et qui a déjà été vendue à plus de 400 000 exemplaires.
Non, c'est pas. Vous l'avez chez vous ?
Non, mais je l'attends, je vais la procurer. Mais vous savez,
le coup de la question de que s'est-il passé le 31 octobre 1517, le ton monte entre nous, Éric Scholl, et maintenant, si vous voulez jouer à ce jeu-là, eh bien, je m'en réjouis parce que les prochaines émissions vont être très amusantes.
Mais est-ce qu'il y a un protestant autour de cette table ? Non, catholique, formation, en tous les cas, orthodoxe. Oui, orthodoxe, voilà.
Donc, Christiane Preda est orthodoxe.
Ce qui est intéressant aussi, c'est, parce que Luther m'a fait penser à ça.
C'est relation avec l'argent.
Aux Pays-Bas, qui était un pays à majorité protestante, pour vous tous, c'est un pays à majorité protestante. Eh bien, pas du tout. Depuis, je crois, 10 ans maintenant, les Pays-Bas sont devenus un pays à majorité catholique. Et donc, il y a un véritable changement idéologique aux Pays-Bas, qui nous a totalement échappé. Mais sur place, c'est énorme, parce que c'est tout ce qu'étaient les Pays-Bas est en train de changer. Donc comme quoi les peuples, les pays peuvent changer.
Alors maintenant, on va reparler d'un sujet qui tient à cœur. Jean Arthuis, qui en a marre qu'on ne parle que du Brexit, ou en tout cas qu'on focalise trop notre attention sur le Brexit. Donc direction le Royaume-Uni, on va parler du Brexit avec vous, Éric Scholl.
Oui, bien sûr, le Brexit, il y en a tout le temps, partout, dans toute la presse britannique, et en particulier le Guardian qui s'interroge, non pas sur les aspects financiers, etc., mais sur un point finalement politique, et qui peut être très important, c'est les relations entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Parce que il y a cette question des frontières qui se pose et qui commence à faire problème. Il y a une grande réflexion sur, au fond, le retour d'une frontière même peut-être en dur entre les deux Irlandes. Alors que depuis des années, finalement, on était arrivé, cette frontière n'existait plus, hein. L'invisibilité de la frontière avait largement amélioré les relations entre le nord et le sud de l'Irlande, nous explique le Guardian. Eh bien, donc on parlait d'une frontière douce que 30 000 personnes franchissent chaque jour, et qui est encore, qui va bénéficier évidemment aux économies. Et aujourd'hui, eh bien, cette frontière douce est exposée, eh bien, aux conséquences du Brexit par le retour, c'est quasiment certain, d'une frontière dure.
Voilà, une frontière dure. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous nous trouvons, pour l'enregistrement de cette émission, dans les couloirs, au cœur même du Parlement européen. C'est pour ça que ça vit autour de nous. Et visiblement, il y a quelqu'un qui parle dans un micro juste à côté de nous. Alors, le retour des frontières dures à cause du Brexit. Nicolas Gros.
Ce qui est sûr, c'est que l'Irlande du Nord, le problème de l'Irlande du Nord, c'est le seul problème, on va dire, qui peut causer une instabilité sur le Brexit. Le reste, c'est de la problématique de règlement européen, en gros d'un règlement de divorce entre les Européens et les Britanniques. Le problème de l'Irlande du Nord, c'est un vrai problème d'instabilité qui peut être généré.
Je ne suis pas sûr qu'il y aura une frontière. Il y a un vrai sujet irlandais. Donc il va falloir qu'on apporte beaucoup de bienveillance pour éviter des chocs en retour. Nous avons prévu des missions sur le terrain pour mieux apprécier la situation.
Christiane Preda.
Il y a aussi un problème écossais. Moi, je trouve qu'il sera très difficile d'éviter un deuxième référendum sur l'Écosse.
Vous le souhaitez ?
Moi, je souhaite.
Ce serait bien fait pour les
gens plus raisonnables et plus sympathiques, plus modérés.
Charles de Marcy.
Les Britanniques, c'est mal de tête avec l'Union européenne et claquage au niveau des mollets avec les Écossais.
Et n'oublie, il ne faut pas oublier Gibraltar.
Parce que Gibraltar aussi.
En plus, il y a le rocher, en plus, il y a Gibraltar.
Et une ampoule à Gibraltar.
Au rythme où c'est parti, là, vraiment, le Royaume-Uni risque de se réduire à l'Angleterre.
Parce que Cameron aurait quand même réussi un grand succès si à la réunification irlandaise, Cameron aura vraiment célébré une
grande victoire. Merci Nicolas Grosvered du site internet Bruxelles 2. Merci Christiane Preda, eurodéputée PPE roumain. Vous parlez vraiment un français remarquable. Je vous en remercie de venir sur ce plateau pour nous en faire profiter. Merci Jean Arthuis. Votre français est pas mal non plus. Hein, eurodéputé UDI de l'ALDE.
Il a fait des progrès.
Charles de Marcilly. Pour un homme de chiffres. Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman et Jean Quatremer de Libération. Merci à Adeline Julie, toujours très efficace et active en régie ici. Merci à toutes les équipes du Parlement européen qui ont mis en son et en image cette émission. Merci à Hélène Leroux qui nous a aidé à la préparer. Merci à vous de nous subir, de nous être fidèles tous les week-ends. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.